La compagnie de théâtre arageoise Avec Vue sur la Mer proposait trois soirées autour de ses spectacles en seule en scène. Ainsi, mi-décembre, on a pu voir à la ruche de l'Université d'Artois le discours de la servitude volontaire de la Boétie, cité Babel, est un puce tic-tac. Pour en parler, rencontre avec Stéphane Véru, directeur de la compagnie.
Oui, on est basé à Arras depuis 2003 maintenant. Bon, j'ai travaillé très longtemps avec Max Gaillard quand il était directeur du théâtre d'Arras. Aujourd'hui, on travaille un peu différemment. On fait des formes plus légères qui peuvent aller partout. Et on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle de façon un peu générique l'éducation populaire. On essaye d'amener surtout aux jeunes générations des désirs de penser, de travailler la raison contre les croyances et d'essayer d'aider à la construction de ces futurs citoyens et citoyennes.
Pendant ces trois jours, il y a trois spectacles phares de la compagnie. Le discours de la servitude volontaire de la Boétie, texte autour de comment un tyran peut asservir un peuple tout entier. Cité Babel avec Rachid Bouhanni où Rachid raconte un peu l'histoire de son quartier à M. Et Tempus Tic-Tac qui traite aussi, on va dire, de la question du temps, mais à travers plusieurs prismes et auteurs surtout, donc pas forcément contemporains. Donc peut-être pourquoi vouloir, on va dire, fêter ces spectacles en solo à l'Université d'Artois.
C'est-à-dire qu'on n'a pas été très présent sur Arras cette année. C'est important de dire aussi que la ville d'Arras et l'Université d'Artois ont passé un accord il y a un an à peu près de partenariat autour de cette salle pour l'ouvrir le plus possible à la population environnante et que ça ne reste pas une salle uniquement dédiée aux étudiantes et aux étudiants. C'est vrai qu'un jour, je me suis dit, il y a quelques mois, mais on a quand même trois spectacles. Cité Babel, c'est plus de 200 dates. Le discours, c'est plus de 130. Tempus, c'est plus de 120. Trois spectacles qui continuent à tourner. C'est quand même pas rien. On n'arrête pas de nous dire que la diffusion des spectacles, c'est très difficile, qu'on ne tourne pas assez, etc., etc. Là, on voulait marquer le coup avec trois formes un peu différentes les unes des autres. Un texte philosophique, mais qui est très accessible. Du théâtre-récit très très populaire dans le bon sens du terme avec Cité Babel et une espèce de vraie fausse conférence sur le thème du temps en sachant que ces trois solos sont en adresse directe, c'est-à-dire qu'on s'adresse directement aux spectateurs. Voilà, on avait envie de fêter ça et d'avoir au moins un beau temps fort, parce que le public vient, sur Arras en 2016.
Il y a aussi trois solos, trois personnes. Est-ce qu'eux ont accepté tout de suite de revenir, on va dire, dans un corps universitaire pour présenter, on va dire, ces textes, pour le coup, qui toujours donnent à réfléchir?
Oui, ils étaient très contents de cette proposition. Et là, je tiens à remercier Rachid parce que, j'ai co-écrit et mis en scène Cité Babel. Mais ça fait très longtemps que Rachid vole de ses propres ailes Là, je reprends un tout petit peu la paternité pour le trio. Il faut bien faire comprendre aux auditeurs qu'on n'est pas dans un sein universitaire complètement fermé, au contraire. Moi, je suis allé dans les centres sociaux, dans les collèges, pour parler des spectacles et pour faire en sorte que les habitants d'Arras Sud sachent qu'il y a une salle qui est là et qui leur est ouverte.
On vous connaît aussi assez militant dans vos textes réinterprétés. L'importance, on va dire aussi aujourd'hui, plus que jamais, l'importance des textes d'auteurs qui sont plus, on va dire, parmi nous, mais qui résonnent encore aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça qu'on va travailler dans les collèges. On va vers les publics, on travaille avec les collégiennes, les collégiens, ou ça peut être aussi des lycéennes et des lycéens. Et c'est vrai que, après ce qu'on a connu, les élections régionales, quand même le Front National a fait un énorme score chez nous. Ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, il y a un mot qui doit revenir en force, c'est éducation. Et là, je rejoins des gens comme Olivier Py ou Romain Rinucci, qui n'arrêtent pas de le dire, de le répéter. Ou Douglas Kennedy, romancier américain, états-unien, qui est exactement sur la même ligne. Enfin, en tout cas, j'estime que ça fait partie de notre devoir de travailler dans ces directions-là. Mais ça n'exclut ni la poésie, ni l'imaginaire, ni l'humour.
Peut-être les prochains projets de la compagnie.
Je dois rester malheureusement dans le concept. c'est-à-dire travailler la raison contre l'obscurantisme, essayer d'éveiller les consciences, de rappeler des grandes lignes directrices comme tout ce qu'a pu échafauder Condorcet à l'époque de la Révolution française. Juste une anecdote, il y a une exposition qui va bientôt avoir lieu à Arras autour de Napoléon. Et chez Napoléon, il n'y a pas que du bon. Donc je vais proposer pendant l'exposition des lectures d'un très beau texte d'un polémiste et historien français, Henri Guillemin, qui nous a quittés déjà depuis pas mal d'années, qui s'appelle « Napoléon tel quel ». Parce qu'il faut quand même sortir un peu de la géographie.
C'était Stéphane Véru, directeur de la compagnie de théâtre avec vue sur la mer. On poursuit avec quelques réactions du public lors du spectacle Cité Babel.
On trouve que c'est vraiment très très bien et que bon, à la fois la prestation et la prouesse de l'acteur et de l'écrivain, on y est très très sensible. Et puis en fait, c'est un peu intemporel par rapport à notre autant, à ce qu'on vit actuellement. On retrouve un peu l'ambiance et les questionnements qui sont tout à fait contemporains, qu'on vit maintenant tous les jours, au jour le jour.
Et vous, votre ressenti aussi à la fin du spectacle, de citer Babel?
Ah oui, moi aussi, ça m'a vraiment plu, la prouesse d'acteur. À la fois le texte, on voyait que c'était du vécu, il s'appuyait sur son histoire de quand il était enfant. Et donc, physiquement, il était dans le personnage. Et puis, une prouesse d'acteur, parce que combien ça a duré, une heure et quart, une heure, c'est de cet ordre-là. Et à aucun moment, on s'ennuie. Si, ça m'a vraiment plu.
C'était la réaction de quelques spectateurs venus assister au spectacle Cité Babel. On en parle avec Rachid Bouali, le comédien du spectacle. Comment on vit un spectacle qui fête cette année ses 10 ans, avec près de 200 représentations, donc tu es seul en scène. Comment on vit, on va dire, un tel succès face à un premier spectacle coécrit?
Alors, on le vit très bien. Moi, j'ai toujours gardé les pieds sur terre et je pense que la matière même du spectacle, c'est-à-dire que quand on regarde le spectacle, on reconnaît tout de suite une classe sociale qui était la mienne, classe ouvrière, d'un quartier ouvrier. Quand on en est fier, ben voilà, on peut faire 200, 300, 1000 représentations, on garde la tête sur les épaules. Je veux dire, c'est surtout que, enfin, moi, ma fierté, elle est de me dire... Waouh, je suis content, j'ai réussi à ramener mon petit monde, donc le vôtre, enfin quand je dis le vôtre, j'ose penser que les auditeurs qui écoutent la radio se reconnaissent dans cette classe sociale, mais en tout cas, cette classe sociale qui est peut-être qui peuple les trois quarts aux trois quarts de la France, voilà, j'ai fait un petit coin de place sur scène pour qu'on puisse se reconnaître. Et le public me le renvoie bien, c'est-à-dire que dans ses rires, dans ses moments de silence, d'émotion, je sens que moi je raconte mon histoire et lui il est en train de se faire son film en se disant « Ah tiens, lui il raconte ça, mais moi j'ai vécu pareil, que ce soit dans un quartier ou dans un village, j'avais eu les mêmes gens ». Et c'est ça qui me donne du baume au cœur, en fait.
C'est l'histoire qui remonte, on va dire, dans les années 70. Donc, on sent aussi qu'il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de collectifs et puis beaucoup de vivre ensemble. Ça a été écrit en 2006. Est-ce que ce vivre ensemble dans un quartier existe encore tel quel ou il reste encore quelques bribes?
Alors, je vais resituer le spectacle par des années 80. C'est vrai que c'était l'âge d'or des associations, des bénévoles, des activités. Nous, on était dans la rue à jouer, mais tout le temps, on jouait, on organisait, on partait en voyage pas loin, hein, d'été de Roubaix ou de M. On allait à Brédune, quoi. Je veux dire, c'était la villégiature, toutes les familles avec la camionnette de la CAF, caisse d'allocation familiale. On partait en week-end à Brédune, moi j'adorais, avec les grandes bouteilles de limonade et les sandwichs au cornet de bif. Mais cela dit, il y avait, c'est vrai, moins de moyens. Alors, je ne vais pas parler comme un vieux con en disant « avant, c'était mieux ». Non, il y avait un mieux dans la solidarité. Bah, c'est simple. Hein. Quand, par exemple, je raconte que dans le quartier, il n'y avait qu'une perceuse, eh ben, quand on n'a pas d'outils et qu'on a besoin d'outils, on a intérêt à bien s'entendre avec son voisin parce que sinon, au moment où tu en as besoin, bah, il ne te le prêtera pas. Donc, du coup, il y avait une attention et vraiment une solidarité au sein du quartier. Quand il y avait quelqu'un qui allait pas bien, bah, il y avait tout le monde qui était autour de lui pour le soutenir ou pour l'aider. Ou pour... Alors, c'est vrai que ça s'étiole un peu. Le bénévolat s'étiole aussi. Les associations se plaignent de ne plus avoir assez de bénévoles ou les bénévoles vieillissent. Je pense que ce n'est pas dû à ce qu'on pourrait dire « Ah, les jeunes, ils ne s'intéressent pas ». Moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense juste que d'abord, il manque de transmission. Je pense qu'on a manqué une étape. Il y a moins d'endroits où on peut transmettre aux jeunes. Bah voilà, on peut construire des projets ensemble et c'est pas l'argent qui prime. Le but, c'est pas se faire de l'argent. Le but, c'est de... La vie passe vite et plus que l'argent, ben les bons moments passés ensemble. Et ça, on en avait conscience. Chose qu'on a peut-être un peu moins parce qu'on parle tellement d'économie et de crise et de trucs et de machins que tout le monde est persuadé qu'il faut courir après les bifetons. Mais alors du coup. Aujourd'hui, je dirais, j'encourage en tout cas à se reposer des questions, à se dire, bah, finalement, si je cours après l'argent et que je n'ai pas le temps de rien, à quoi ça sert d'avoir de l'argent ? C'est vrai que moi, dans ma cité, j'ai des copains aujourd'hui qui ont vécu plutôt dans des cités bourgeoises et ils me disaient, mais nous, notre enfance, c'était l'ennui, quoi. Parce que dans le quartier, il n'y avait personne dehors. Alors que nous, dans le quartier, ça grouillait de gamins. Et, ah, oh, qui c'est qui veut faire un foot ? Allez, il y en avait 15. Ah, qui c'est qui fait une délivrance ? Allez, il y en avait 15. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on s'est poilé ?
Comment toi tu es arrivé à t'intéresser, on va dire, au monde de la culture, à en faire ton métier du théâtre ?
J'ai eu la chance d'avoir un animateur socioculturel. Mmh. Je vous disais, c'était l'âge d'or des associations, de la culture, des sorties pour aller voir des musées, des pièces de théâtre, tout ça. Il y avait un animateur qui s'appelle Jean-Maurice Boudel. Il vient juste de rentrer en retraite, là, mais il est directeur du théâtre de l'Aventure à M. Mmh. Et avant, c'était pas un théâtre, c'était juste des activités. Et donc, moi, j'ai commencé le théâtre avec lui, j'avais 6 ans, quoi. 7 ans, 8 ans, 9 ans, et après, à 11 ans, 12 ans, c'était normal de faire du théâtre. Et à 17 ans, 18 ans, bon, j'étais pas une étoile, enfin, plutôt filante hein, du collège, donc j'ai pas vraiment fait d'études. Et quand je me suis retrouvé enlisé et empêtré dans mes études, que je n'avais pas ni diplôme, ni j'ai pas de bac, j'ai rien, même pas le BCG. Et du coup, je me suis dit... Ben, j'ai plus de 10 ans de théâtre derrière moi, ben, c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien, ben, j'ai envie de faire ce métier. Et du coup, j'ai quitté les copains, le quartier, je suis allé à Paris, j'ai fait une école pendant 2 ans, et puis voilà, après c'est parti.
Nous sommes toujours en compagnie de Rachid Bouali, comédien et seul en scène du spectacle Cité Babel. En fait, il y a une réplique, je pense, qui montre bien, on va dire, le spectacle. C'est vraiment à la fin. Il y a ceux qui partent et il y a ceux qui restent. Puis il y a ceux qui arrivent aussi. Quelques mots aussi sur ça ?
Bah oui, parce que ceux qui nous écoutent, là, il y en a peut-être qui ont déjà eu cette expérience-là. Je quitte le quartier, je fais ma vie, je pars à Paris, je rentre dans une école, je fais voilà. Et puis, un jour, je retourne dans le quartier. Les années ont passé, et encore aujourd'hui. Hein. Genre, ça fait, je sais pas, une trentaine d'années, quoi. Et là, je croise quelqu'un qui est resté, quelqu'un de mon âge qui est resté. Et je me mets à parler avec lui. Et là, il se met à me répondre, mais avec la même mentalité que j'ai laissée il y a 30 ans. Et là, je fais un bond en arrière. Et je me dis, waouh, incroyable, il est resté, il n'a pas évolué. Il est resté scotché à son banc ou à sa barrière de béton, à ressasser les mêmes trucs et les mêmes bazars. Et je me rends compte que bah, en fait, sa pensée est restée complètement... c'est sclérosé, quoi. C'est appauvri, c'est resté poussiéreuse comme un objet usé qui a pas eu l'expérience d'avoir été utilisé ou d'avoir parcouru le monde, quoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est à travers les autres qu'on voit comment on a évolué. Et là, je me suis dit, ouais, quand même, j'aurais pu être comme lui, être resté comme le quinquin qui reste sur les... Dans le spectacle, je parle d'un quinquin qui reste sur les barres de béton pendant toute sa vie et qui est là, et qui picole, et qui est là. Et puis qu'un jour, il m'a dit, ouais, moi aussi, j'aurais dû faire du théâtre comme vous. Là, je suis sûr que, en fait, j'aurais dû, quoi. C'est-à-dire qu'il est resté là et puis... Il est resté là à espérer une vie meilleure, mais en fait, il a attendu, le bus est parti, il n'est pas monté dedans.
Je trouve ça super dur, en fait. J'ai vraiment trouvé que le spectacle était très vivant. Comment vous êtes imprégné de tous ces personnages-là aussi et de tous ces accents aussi ?
La question est dans la réponse. Tu dis comment vous êtes imprégné? Bah, je suis imprégné. C'est-à-dire quand on grandit avec des gens, mon identité, c'est les gens qui m'ont entouré depuis ma jeunesse. Donc en fait, on transpire les gens. Moi, quand je prends un personnage, mais je le vois, je parlais de Belkacem avec sa grosse bedaine, sa moustache en paillasson et son bonnet d'immigré vissé sur la tête. Quand il parle comme ça. De courgettes, de poteron. Mais il est drôle. Mais c'est vrai que quand je l'imite, je l'entends, je le vois, on dirait qu'il est à côté de moi. Donc c'est plutôt, dans ce genre de spectacle autobiographique, c'est plutôt facile pour moi.
Et ça n'a pas été trop dur pour finalement les gens donc se voir comme ça, l'effet miroir sur scène?
Non, c'est drôle, parce que quand je l'ai joué dans le quartier, il y a des gens du quartier qui m'ont dit « Eh, ça, tu l'as pas raconté, faut que tu racontes ça aussi hein. !» Alors ils venaient compléter un peu, mais bon, je peux pas tout raconter non plus. Hein.
Nous sommes toujours en compagnie de Rachid Bouali, comédien et seul en scène du spectacle Cité Babel. Depuis, vous avez écrit quelques pièces. Est-ce que tu peux en parler un petit peu?
La deuxième s'appelle « Un jour, j'irai à Vancouver », justement en parlant d'adolescence. J'ai écrit un spectacle qui parle de comment on était à l'arrêt de bus, à l'arrêt. En fait, on était un peu à l'arrêt, il ne se passait rien, quoi. Et comment on a rencontré le théâtre, qui était pour nous une révolution. Il y a une recette, hein, faut suivre les filles, et puis on se retrouve à monter Antigone dans un théâtre avec des metteurs en scène. C'est un peu la trajectoire du deuxième spectacle. Et le troisième, quand j'ai sorti le deuxième, qui parle de l'adolescence, j'ai perdu ma mère. Et je m'étais dit, ah, j'aurais voulu écrire un spectacle qui parle d'elle, mais de son vivant. Et je l'ai écrit quand même parce que je me disais, bah, là où elle se trouve, peut-être qu'elle l'entendra. Et j'ai écrit le jour où ma mère a rencontré John Wayne, parce qu'elle adorait les westerns. Voilà. Oui, c'est parce qu'il y a un quatrième spectacle qui vient de sortir et qui parle des réfugiés. Parce qu'en fait, on raconte souvent ce qui nous anime. Et sorti un peu de, on peut dire, une espèce de saga sociale. Les trois spectacles parlent du quartier, parlent des gens qui nous entourent, tout ça. C'est pas que j'avais fait le tour. Les gens ils me disent « Ah, ça y est, t'as quitté ta saga ». Je dis « Non, j'ai rien quitté. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, mon urgence, c'est d'écrire sur les réfugiés parce qu'il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde où je pense pas à eux, quoi. Et donc, bah, nous, voilà, on est des artistes. On a encore la chance d'avoir une tribune et de pouvoir parler et qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Donc, voilà, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Sans laisser de traces » et qui commence à prendre son essor et on espère le jouer, en tout cas, partout.
Comment, en fait, on se documente sur ce sujet de la migration? Est-ce que c'est la migration de son histoire propre, des parents, des grands-parents qui ont immigré, qui sont arrivés en France, ou c'est vraiment cette migration actuelle avec toutes les répercussions qu'on peut voir, qu'on peut vivre aussi finalement dans notre propre histoire?
J'ai un peu tout télescopé parce que j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire que de mettre en parallèle et en écho une histoire avec une autre. Par exemple, je commence par le mythe de Charon, un mythe grec qui parle du passeur qui se trouve sur le bord du fleuve qu'on appelle le Styx. C'est l'endroit où on passe du monde des vivants au royaume des morts. Et le passeur, dans la mythologie grecque, fait passer les morts. Et quand on lit, on relit le mythe grec, on s'aperçoit que même morts, ils doivent payer pour passer. Et même morts, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent, ils vont pouvoir accéder à ce qu'on appelle les Champs-Élysées. Parce qu'on ne s'est jamais demandé d'où venait le mot Champs-Élysées, mais ça vient de là déjà. Et c'est un endroit où ils ont des privilèges, ils peuvent revenir, où ils sont nés, ceci, cela. Ceux qui n'ont pas d'argent, ça sera la plaine d'Asphodèle. Ils doivent errer. Et pour les indésirables et les clandestins, ça sera le Tartare. C'est un peu l'image qu'on se fait des enfers, un cri de damnation éternelle. C'est la jungle de Calais, quoi. Et quand je relisais ça, je me dis, waouh, ouais, faut raconter ça, parce que depuis 4000 ans, on raconte des histoires de passeurs d'argent et de gens qui veulent passer, qui n'ont pas de place dans le bateau, tout ça. Donc je commence par le mythe grec, et puis pouf, on bascule, on est dans un témoignage de gens que j'ai rencontrés. Serge, un mec de Côte d'Ivoire, qui raconte comment lui, il était pris en étau entre l'État, on l'a pris pour opposant au régime du président Gbagbo, mais il dit, mais moi, je ne suis pas un opposant! Et il dit, et du coup, l'armée rebelle me demande de rentrer dans les rangs de la rébellion. Mais moi, je suis pas un rebelle. Et il dit, on m'a menacé de mort dans les deux camps. J'étais pris en tenaille. Alors, du coup, il a fui, il est parti, puis il s'est retrouvé là. Et je raconte aussi comment nous, on disait à l'époque, parce qu'on se scandalise de 10 000 personnes à Calais, mais on a juste oublié qu'il y a eu 15 000 Espagnols qui se sont installés à Paris, qui ont fui Franco à l'époque, d'autres qui ont fui Salazar du Portugal, et les Algériens qui sont arrivés à 15 000, 16 000 pour aller travailler dans les usines. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Dans la même période, il y a eu 45 000, 60 000 immigrés. Et je dis au public, et c'était qui au fait ces gens? Ton père? Le mien peut-être? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des Français? Alors j'aime bien, tu vois, mettre en parallèle et que tout s'imbrique juste pour se rappeler que tout, on dit, c'est, tu vois, les mots parlent, on dit tissu social. Tissu, c'est quoi? C'est des fibres qui sont imbriquées les uns aux autres et qui forment ce tissu. Je veux dire, c'est l'agglomération française, le peuple français n'est que ça, un tapis, un tissu entremêlé. Si on enlève un des maillons, ça se démaille, c'est comme un pull sur lequel on va tirer un bout de ficelle. Bah, ça se délite. Je veux dire, on est soudés ensemble, on fait l'histoire de France et on en est fiers.
Nous sommes toujours en compagnie de Rachid Bouali, comédien et seul en scène du spectacle Cité Babel. L'importance aussi de la culture, on va dire, dans la vie citoyenne aussi.
On vit quand même une révolution, tu vois, on a tout. On est en train de grimper en millions de personnes qui maintenant, ils font leurs cours sur Internet. Pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est voilà, c'est la société qui change. Mais s'il n'y a plus de centres sociaux, s'il n'y a plus de théâtre, s'il n'y a même plus de magasins parce qu'on les dématérialise, où est-ce qu'on se rencontre? Où est-ce qu'on se rencontre? Je veux dire, le silence, le regard, juste la manière dont une fille va remettre juste ses cheveux sur son oreille, ou toutes les petites choses qu'on voit dans le métro, tout ce qui fait que c'est la matière vivante est là devant nos yeux et se déroule, c'est quand même l'essence de l'humanité, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas de rencontre, c'est la mort, autant aller tout de suite se donner rendez-vous au cimetière. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la culture, c'est quand même la lumière. C'est-à-dire que plus on est éclairé, plus on voit clair sur certaines choses. On dit toujours en deux mots, tu peux nous dire d'où tu viens? Non, deux mots, excuse-moi, je peux pas. En deux mots, non, attends, j'ai 47 ans maintenant, je peux pas te résumer ma vie en deux mots. Donc soit t'as le temps et on en discute, ou alors tu viens voir un spectacle et on en discute autour, il y a un débat. En fait, tu viens connaître quand même, l'essence du mot connaître, c'est naître avec. Tu viens juste à un moment donné prendre un peu plus de temps que... En deux mots, ou un truc que t'achètes à Lidl pour 3 francs 6 sous, tu vois, sous cellophane. Non, tu viens te rendre compte vraiment de la vie. Et une fois que tu t'es fait ton avis, tu peux peut-être prétendre à pouvoir en parler et en savoir un peu plus, quoi. Et c'est vrai que tu parles d'obscurantisme. Voilà, t'as fait le lien. C'est-à-dire que moins on se verra, moins on connaîtra nos voisins, et plus c'est la merde qui s'installe, quoi. Moi, je suis désolé, je veux pas mâcher mes mots. Je veux dire, on nous vend des trucs à la radio, à la télé. Regarde, là, c'est le mot à la mode. On dit, tout à l'heure, on parlait de réfugiés, là. Les migrants. Attends, quoi, les migrants? Alors, tu vois, j'ai fait un spectacle, il y en a une seule qui m'a dit ça. Enfin, elle ne me l'a pas dit directement, elle l'a dit à mon musicien, elle a dit « Oui, mais on n'a rien appris !» Je dis « Mais si, t'as appris quelque chose. T'as appris déjà à t'asseoir sur une chaise et à rester avec 400 personnes dans une salle à écouter des témoignages. Parce que c'est pas vrai qu'on n'apprend rien. » On n'apprend rien. Quand tu passes les pages de ton iPad, tu dis « Ouais, ok, encore 200 morts dans la Méditerranée, hop, le résultat du foot, hop. » Et tu crois que tu sais, mais tu sais rien. Tu consommes juste de l'info, d'intellect à intellect. Mais qu'est-ce que tu as pris d'en comprendre et apprendre? Qu'est-ce que tu as pris dans ton corps? Qu'est-ce qui t'est laissé? Qu'est-ce qui t'est gravé dans ton cœur quand tu as quelqu'un qui te raconte qui a 15 ans et qui a traversé de l'Érythrée, qui s'est pointé ici, qui a traversé des déserts, qui s'est fait violer, qui s'est fait racketter, qui s'est fait frapper et qui a réussi quand même, et qui te dit avec la banane « Ouais, non, mais moi, je veux aller en Angleterre. Et t'es pas anglais, toi? Tu peux me faire passer ?» Tu dis « Putain, mais quelle vie, quoi, quelle école !» On n'a même pas vécu le dixième du dixième de ce qu'il a vécu depuis qu'il a 15 ans, quoi. Alors, de dire « Ah, ben non, mais ça, on sait tout ça. » Non, on sait pas. Je pense pas, non. Donc, tu vois, le théâtre, je pense, ouais, ça nous apprend quand même l'humilité. Enfin, la culture, ça nous apprend. Plus on rentre dans la culture, plus c'est énorme et plus on se trouve petit et du coup, plus humble, tu vois. Moins on en sait, en fait. Plus on apprend et moins on en sait. Ça décourage, ouais.
Ça donne l'espoir. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Rachid Bouali, comédien originaire de M et seul en scène du spectacle Cité Babel. Il était présent dans le cadre du triptyque consacré au spectacle centenaire de la compagnie de théâtre Avec vue sur la mer. Pour davantage d'informations sur la compagnie, un site internet www.siavecvuesurlamer.org. Un sujet réalisé par Honorine Campagne pour Radio PFM.